Samedi 18 septembre, rendez-vous à Montgestie pour une journée missionnaire organisée par l'association Jean-Gabriel Perboire. Alors là, on va s'intéresser à ce garçon. Qui est Jean-Gabriel Perboire? Pourquoi on lui consacre une journée? Et pour y répondre, notre invité, que nous recevons donc régulièrement, parce qu'il est éditeur et il connaît bien l'Écosse, il connaît bien le Lot, c'est Gilles Chevriot. Bonjour Gilles.
Bonjour Yannick.
Sauf que cette fois, tu ne viens pas en tant qu'éditeur.
Non, mais un éditeur, c'est un communicant. Donc, communicant voilà. Au sens large. Et là, en l'espèce, parler de Montgestie, du Puech, localisation de la maison natale de Jean-Gabriel, saint que nous allons fêter le 18 septembre, est pour moi une chose naturelle.
Alors oui, mais Jean-Gabriel Perboire, c'est qui en fait?
Oui, alors c'est qui? On va dire que c'est peut-être le Lotois le plus célèbre dans le monde.
Ah bon?
Oui,
absolument. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Parce que c'est un religieux, on imagine, du coup, pour que ça soit une journée missionnaire, on se doute bien que c'est un religieux.
Oui, mais le mot mission n'a pas qu'une connotation passéiste et religieuse. Le mot mission est un mot très actuel. Finalement, la mission, c'est chacun a sa propre mission dans sa vie, que ce soit une mission à vocation religieuse, intellectuelle, spirituel, on a tous une mission.
Gilles Chevriot, on construit
sa vie dans un chemin.
Mais c'est un peu langue de bois, parce que moi, ma mission de vie, on ne va pas me consacrer une journée pendant des années, si tu vois ce que je veux dire. Il a dû faire quelque chose de particulier quand même.
Ça dépend ce que Yannick va faire dans sa vie.
Aussi, c'est vrai. Voilà. Michel Lombard, d'ailleurs, dans son dernier livre sur les contes et légendes du Quercy, m'a dédicacé en disant à une légende du Quercy en devenir. On ne sait jamais.
Eh oui, effectivement.
Voilà, mais pour revenir à Jean-Gabriel Perboire, qui était-il?
Alors, Jean-Gabriel Perboire était l'aîné d'une famille d'agriculteurs qui habitait le hameau du Puech, un des hameaux de Montgestie. Une famille, on va dire, assez aisée. Je pense que c'était la deuxième ferme la plus importante du secteur. Sept frères et sœurs, c'était donc celui qui était destiné à reprendre l'exploitation. Et puis à cette époque-là, beaucoup de familles, il y avait, qui étaient très nombreuses, parce que bien sûr, on le sait, il n'y avait pas les méthodes de contraception, parce qu'il fallait nourrir les anciens qui restaient, donc il fallait de nombreux bras pour amener des moyens de subsistance pour que les anciens puissent continuer à vivre. Jean-Gabriel, on va dire, est entré en religion un peu par hasard. C'est son frère qui est parti au séminaire. Comme ça ne se passait pas très bien, les premières années du séminaire de son frère, c'est Jean-Gabriel qui est venu le soutenir. Voilà, tout simplement, ça s'est passé à Montauban. C'est à ce moment-là et à ce lieu-là qu'il y a eu ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire que les prêtres ont compris que Jean-Gabriel était plus finalement destiné à embrasser une carrière d'ecclésiastique que devenir agriculteur.
Alors qu'il n'était pas venu pour ça.
Il n'était pas venu pour ça, il était venu comme enfant étudiant, apprendre, faire sa scolarité normale auprès de son frère. Donc il est resté. Et là, on était dans une période où il y avait le départ de religieux européens, on va dire, on va se placer dans notre, même si ce n'était pas l'Europe, mais qui partaient pour défendre les causes, des causes religieuses des congrégations de l'époque. Et toutes les religions avaient à cœur d'aller à l'extérieur de leur territoire, français, département, etc., pour aller évangéliser largement le monde.
Ce que l'on appelle un missionnaire.
Missionnaire. Et là, en l'occurrence, alors les missions, ce n'est pas d'aujourd'hui. On va dire que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu à cœur, en fonction des possibilités de déplacement, fut-elle très difficile. Et à l'époque de Jean-Gabriel, c'était le cas. Il n'y avait pas l'avion, on partait en bateau. Et après, quand on était sur la terre, ferme, on y allait pédibus ou alors avec les moyens du bord, des chars, des carrioles, de tout ce qu'on voudra.
Des voyages qui duraient longtemps.
Qui duraient un certain temps, voilà, c'est ça. Et avec tous les risques de maladie.
Aussi, les brigands.
Toutes les turpitudes du voyageur, que le voyageur peut croiser sur sa route. Et donc, son frère est parti en Chine.
Voilà. Le frère de Jean-Gabriel Perrin.
Oui, mais il est décédé pendant le voyage.
D'accord.
Donc, Jean-Gabriel était toujours scolarisé. Il a fait plusieurs passages pour, on va dire, faire progresser sa foi. Alors, il a été tout d'abord à Montdidier, dans un... Je crois que c'était... Montdidier, je pense que c'était un séminaire. Non, c'était un collège. Voilà, et ça, il est parti en 1825-1830. Après, il a aussi fréquenté Saint-Flour, où il a été professeur au grand séminaire. Donc, c'est l'époque où il y avait beaucoup, dans les villes, de séminaires. Hein. Il y en avait un à Cahors, il y en avait un à Gourdon.
Mais il était prêtre, alors.
Il était prêtre, mais il était en charge de d'élèves. Il avait certainement une activité de prêtrise, mais à côté, il était enseignant, comme ça se faisait partout. Hein. C'est le cas encore aujourd'hui. Dans les séminaires, il y a des enseignants qui... il y a des laïcs, mais il y a aussi des enseignants religieux. Hein. Voilà. Le problème, c'est qu'il avait... c'était sa santé qui était très fragile. Et c'est vrai que à chaque fois, lorsqu'il écrivait à ses parents, il disait « Dieu me donne la force parce que je sais que je n'ai pas une santé bien brillante ». Donc son frère, qui est parti plus tôt, lui, est décédé en 1830 pendant le voyage. Et Jean-Gabriel avait été profondément atteint par la disparition de son frère.
Parce qu'ils étaient proches ?
Parce qu'ils étaient proches, et puis parce que quand on perd un frère, c'est toujours, bien sûr...
pas forcément. Dans une famille normale, oui.
Coupé. c'est toujours une déchirure. Et donc, en l'occurrence, il a compris que c'était à lui, finalement, qu'incombait la mission que son frère devait atteindre en Chine. Et il s'est senti investi, et c'est à cause de cette séparation de son frère, que lui s'est engagé sur le chemin jusqu'à la découverte du pays et donc d'engager cette mission d'évangélisation, puisque sur place, il y avait déjà des catholiques, mais qui vivaient mal parce que...
Persécutés,
parce que on ne faisait rien pour les aider à avoir un bâtiment, on va dire, conforme à l'exercice de leur foi. À l'époque, et selon le régnant en place, il pouvait y avoir de la mansuétude pour les autres religions, ou au contraire, pas de mansuétude du tout. Et là, en l'occurrence, il s'est trouvé confronté à une période où l'empereur de Chine de l'époque, où le responsable de la province dans laquelle il était, se sont concertés pour mettre fin à sa vie, le déclarer comme non conforme à ce que l'on attendait de l'expression d'une religion, parce que peut-être voulait-il en faire peut-être beaucoup, je ne sais pas. Il faudrait se plonger dans l'histoire, et ce serait difficile au micro d'expliquer pas à pas toute cette période. En tout cas, la région où il s'est trouvé, il a été dénoncé par les yeux des autorités, et on lui a demandé de renier sa foi. Et c'est pour cette raison que cette absence de réponse positive auprès du régnant, on l'a placé sur un gibet, on l'a déclaré, on a estimé qu'il ne devait pas poursuivre, malgré les tortures, il ne voulait pas renier sa foi, donc il a été mis à mort, placé sur un gibet.
C'est quoi un gibet ?
Ben, un gibet, c'est une sorte de comme une croix, hein, qui est implantée à hauteur du sol, dans lequel le supplicié ne peut pas bouger. On lui met les mains dans le dos, on lui met un lien pour qu'il puisse pas bouger ni des pieds ni des mains. Et puis le gibet derrière, c'est la flagellation, et puis la mise à mort avec la strangulation, ce qui s'est produit en 1840, date de au mois de septembre. Et c'est pour cette raison qu'au mois de septembre, chaque année, le 11 septembre, mais en l'occurrence cette année c'est le 18, au mois de septembre, on fête Jean-Gabriel depuis les années 80, depuis que s'est constituée une association sur place pour honorer son martyr dans le cadre de la maison natale qui est toujours ouverte et qui est restée dans son jus, que l'on peut encore visiter.
Mais Gilles Chevriot, pourquoi il était connu mondialement alors ?
Ben parce que les lazaristes étaient et sont toujours une congrégation connue dans le monde entier, qui ont toujours des présences physiques dans les différents coins de la planète. Et Jean Gabriel, c'est leur référence. Mmh. Et donc, de fait, porté par la voix de la foi, Jean Gabriel est reconnu comme martyr parce que c'était un des premiers martyrs qui a laissé une trace à l'époque. Hein, voilà.
Donc l'association Jean-Gabriel Perboire, son but, c'est effectivement de faire perdurer son histoire et sa mémoire.
Oui, tout à fait, et de faire connaître sa vie au travers des écrits, puisqu'il y a eu de nombreux livres qui ont été consacrés à Jean-Gabriel. Et puis les gens peuvent venir sur place, visiter la maison natale, où rien n'a bougé. Il y a encore le lit, l'armoire, le réchaud, le cantoue, les reliques dans une pièce, etc. Et quelqu'un pour expliquer, et quelqu'un, un membre de la famille, puisque ça s'est transmis de génération en génération, et aujourd'hui c'est une lointaine parente qui est propriétaire des lieux et qui accueille les personnes qui veulent visiter toute l'année. C'est un, on va dire, tourisme et foi. Mmh. Hein, voilà.
Ce 18 septembre, dans le cadre de cette journée, justement, il y a un spectacle qui est fait par les baladins de l'Évangile, où on met en parallèle la passion du Christ avec la passion de Jean-Gabriel Perboire. Quel est le point commun entre la passion du Christ dans ce spectacle ? Alors déjà, il faut le dire que c'est avec c'est des jeunes qui le font, si
oui,
je comprends.
Oui, alors voilà, les baladins de l'Évangile, c'est une troupe qui se met à disposition des paroisses pour amener la logistique et pouvoir bâtir un spectacle très rapidement.
C'est pas un spectacle d'école, on va dire par là. C'est avec un vrai décor.
Voilà, en l'occurrence, on fait appel aux catéchistes, aux jeunes à partir de 8 ans jusqu'à des jeunes adultes qui veulent s'exprimer dans le cadre d'un petit spectacle le soir. Ils arrivent le matin, ils sont pris en charge par les baladins qui leur font monter les scènes, répéter, on va dire, quelques textes. Ils fournissent les costumes, ils fournissent les lumières, ils fournissent les décors. Mmh. Le podium est installé, il y a un chapiteau. Enfin, tout est cadré, quoi. Hein, voilà. Donc, ces baladins ont cette mission d'expression de la foi par des scènes, par des tableaux. Et effectivement, la passion du Christ et la passion de Jean-Gabriel. Bah, déjà, il y a un problème de tranche d'âge.
Mmh. Hein, ouais, à peu près approximativement le même âge.
0-30 ans, 0-38 ans.
Ouais, hein, voilà, on est dans la même... Ouais.
Et puis parce que le Christ, bien sûr, il a connu aussi son martyr par la passion, lorsque il a cheminé pour aller jusque là où on l'a mis en croix, il était effectivement au
La passage, passion, c'est quoi? C'est la parole de Dieu,
c'est passion. La passion, c'est pas la parole de Dieu, c'est l'expression de la montée en croix depuis le fait qu'il était dénoncé et que les Romains l'aient exposé et l'aient crucifié en croix. Hein, voilà. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est une espèce de similitude. Enfin, il faudrait analyser les différents moments de la passion et les différents moments de la passion de Jean-Gabriel, la passion du Christ, pour y trouver des similitudes. Mais effectivement, on trouve bien sûr à la fois le fait d'être dénoncé, il y a eu cette dénonciation à chaque fois, d'être ensuite
torturé,
et puis ensuite d'être exécuté. Hein, sur une croix, alors que le gibet de Jean-Gabriel, qui est souvent représenté dans les églises, dans le statuaire, on le voit, il est plutôt à genoux, avec cette croix derrière, et où il a les bras et les chevilles liés avant la strangulation.
Il y a une représentation ici dans
Il y a beaucoup de. Il y a une chapelle d'abord à la cathédrale de Cahors, la cathédrale Saint-Étienne. Il y a une chapelle qui est dédiée à Jean-Gabriel.
D'accord.
Oui, tout à fait. Et dans beaucoup d'églises. Par exemple, à Casale, qui est une ville à côté de Montgesti, il y a une chapelle qui est consacrée à Jean-Gabriel Perboire. Dans ma commune, il y a un statuaire de Jean-Gabriel. C'est d'ailleurs une idée qui un peu a germé aussi au fur et à mesure que j'ai apporté mon, modeste concours à cette association Jean Gabriel. Je suis à peu près certain qu'il n'y a pas eu de recensement exhaustif du statuaire de Jean Gabriel dans le département, ne serait-ce que dans le département, mais il y en a bien ailleurs.
Gilles Chevriot, cette journée missionnaire, bon, on comprend l'intérêt pour quelqu'un qui est effectivement croyant, pratiquant, oui. Ou autre, ça, on comprend effectivement l'intérêt de commémorer la mémoire de Jean-Gabriel Perboire, mais quel serait l'intérêt pour des personnes qui ne fréquentent pas les églises, qui peuvent croire ou pas du tout d'ailleurs, entre parenthèses?
Mais je crois que le lieu, moi j'ai découvert ce lieu grâce à Monseigneur Turini, qui était le prédécesseur de Monseigneur Camiade. Et je ne sais pas, dans ce lieu, je trouve que y a une atmosphère particulière qui vous...
Il y a l'âme, en quelque sorte.
Oui, pas forcément, mais je ne sais pas. Même sans rentrer dans la maison natale du Saint, je trouve que les lieux se prêtent à cette...
Parce qu'il a été sanctifié ? Sanctuarisé, alors, je ne sais plus comment on dit
alors,
d'ailleurs.
Il a été d'abord béatifié.
Béatifié.
Et après, il a été canonisé.
Canonisé, voilà, c'est le
canonisé,
terme.
Canonisé, voilà. Et donc, il faut savoir que lorsqu'il est... Et en plus, bon, alors c'est vrai, on va dire que au fil des temps, la pratique religieuse se transforme. Elle ne sera jamais comme avant. Et aujourd'hui, elle est différente. Et je pense que ce lieu correspond parfaitement à une prise de conscience de chacun qui recherche peut-être...
Une certaine spiritualité.
Une certaine spiritualité, disons-le comme ça. Ce n'est pas forcément pour immédiatement s'agenouiller devant l'autel, participer à la communion. Tout ça, c'est des choses qui se font progressivement.
Et puis, c'est une histoire aussi.
Et puis, il y a une histoire qui est aussi très riche.
Qui est vraie.
Qui est vrai et qui, dans les lieux, est exprimé en toute simplicité. Je crois qu'aujourd'hui, le grand décorum, le grand tralala, c'est un peu passé. On a besoin de simplicité et de choses, de retour. C'est un espèce aussi de retour à la nature.
Ouais.
C'est ce que recherche aujourd'hui chacun et chacun.
Cette journée missionnaire, c'est le 18 septembre à Montgesti.
Au Puech en début d'après-midi,
ouais.
Et à Montgesti en deuxième partie de journée.
D'accord, voilà. Donc avec des messes solennelles, les conférences, des musiques populaires. Oui. Il y a aussi un repas qui est un comment dirais-je, alors c'est un repas quoi,
un
qui
repas,
a lieu le soir.
Un repas sur le soir, il faut s'inscrire par contre.
Ouais, c'est
repas.
Ce que j'allais dire, avant le 10 septembre, bon
oui.
C'est un peu trop tard.
On peut prolonger, il suffit simplement d'aller sur le site www.jeangabrielperboire.org.
Et il y a tout le programme
en
même temps.
Il y a le programme, il y a le bulletin d'inscription pour le repas. Et puis si on veut aider l'association, y participer, on peut adhérer.
Et ben voilà, il n'y a pas de problème. Et
puis, la porte est ouverte.
Ne manquez pas le spectacle par les baladins de l'Évangile qui se tiendra à proximité de l'église de Montgesti avec des chaises à votre disposition. Question
Et un chapiteau.
Et un chapiteau.
En cas de pluie.
On vaudrait mieux.
Et ne pas oublier les conditions sanitaires en vigueur.
C'était ma question.
Le masque et le pass.
Voilà, c'était ma question, tout simplement, pour terminer cette interview, puisque de toute façon, on est obligé de poser la question.
Exactement.
Merci Gilles Chevriot.
Merci Yannick.
À la prochaine, puisque je sais que les éditions Edicos sont un livre en préparation.
Même d'autres. Même plusieurs.
Oh là 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 là. Mais là, celui qui arrive là, il est déjà en souscription. C'est à la recherche d'un Cahors perdu 1920-1960. J'ai hâte qu'il sorte et que tu viennes nous en parler parce qu'on va, comme d'habitude à chaque fois, apprendre pas mal de choses. Merci Gilles Chevriot.
Avec plaisir. Merci Yannick.